Bonsoir à tous. Vous êtes sur VO Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC, édition de ce mardi 14 mai 2024. John Linden à la présentation. Ali Mahaman Lamine Zen s'exprime sur les raisons de la rupture de la coopération militaire entre le Niger et les États-Unis. Dans une interview accordée au Washington Post, le premier ministre nigérien évoque des menaces des officiels américains. L'Union européenne donne son feu vert au pacte sur la migration et l'asile, une réforme qui durcit les contrôles en Europe. Le chef de la diplomatie américaine est en visite en Ukraine, une visite surprise au cours de laquelle Anthony Blinken a rassuré Kiev sur l'arrivée de l'aide militaire américaine. Dans la guerre à Gaza, Human Rights Watch accuse Israël d'avoir frappé au moins 8 convois d'organisations humanitaires. Et puis, ne ratez pas la minute éco et les sports, mais pour commencer, le journal. Le premier ministre du Niger a affirmé dans une interview au Washington Post que Niamey a décidé de rompre sa coopération militaire avec les États-Unis en mars dernier en raison de menaces proférées par des officiels américains. Plus de précisions avec Dili Diko.
Selon le premier ministre Ali Mahaman Lamine Zein, lors d'une visite d'une délégation américaine au Niger, la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Molly Fee, a menacé les autorités de Niamey de sanctions si le Niger signait un accord pour vendre l'uranium qu'il produit à l'Iran. « Vous venez ici nous menacer dans notre pays. C'est inacceptable. Et vous venez nous dire avec qui nous pouvons avoir des relations, ce qui est également inacceptable. Et vous le faites avec un ton condescendant et un manque de respect », affirme avoir répondu M. Zein à la délégation américaine. Il accuse aussi les États-Unis de n'avoir pas assez aidé le Niger dans sa lutte contre le terrorisme, comme ils l'ont fait avec d'autres alliés de Washington, comme l'Ukraine ou Israël. Le Niger a dénoncé le 16 mars avec effet immédiat l'accord de coopération militaire avec les États-Unis peu après le départ de la délégation américaine menée par Molly Fee. Les États-Unis ont accepté mi-avril de retirer du pays ses plus de 1000 soldats et des discussions sont en cours pour les modalités de ce retrait. Néanmoins, la coopération américaine pour l'aide au développement se poursuit avec un nouvel accord pour un montant de près de 500 millions de dollars sur 3 ans, selon le ministère des Affaires étrangères nigérien.
Au Mali, le colonel Assimi Goïta a accueilli favorablement les recommandations issues de consultations organisées par la junte, proposant notamment plusieurs années supplémentaires des régimes militaires et une candidature du colonel Goïta à une future présidentielle. Il a assuré un suivi de ses recommandations pour les concrétiser sans entrer dans les détails via une vidéo postée sur la page Facebook de la présidence. Cependant, un collectif de partis et d'organisations de la société civile malienne a rejeté la perspective de régime militaire prolongé, dénonçant une mascarade et accusant les militaires de vouloir s'éterniser au pouvoir. Les consultations étaient censées produire des solutions de sortie des crises. Le nombre d'enfants au Burkina Faso confrontés à des niveaux d'urgence et de famine devrait quintupler, atteignant environ 210 000 d'ici la mi-2024. Si une aide alimentaire urgente n'est pas fournie, l'insécurité, la saison maigre et la hausse des prix alimentaires exacerbent la crise, selon l'ONG Save the Children. Les donateurs internationaux doivent intensifier leur soutien pour éviter une catastrophe humanitaire, plaide l'ONG. Au Rwanda, un ancien législateur du parti au pouvoir a été arrêté pour possession illégale d'armes, a déclaré la police. Membre du Front patriotique rwandais, jeune Barikana, 57 ans, était devenu législateur en 2013 avant de démissionner de son poste avant l'arrestation. La police n'a pas précisé quand l'arrestation a eu lieu ni la nature des armes trouvées. S'il est reconnu coupable de détention illégale d'armes, Barikana risque une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 2 ans et une amende pouvant aller jusqu'à 1 540 $. Les pays de l'Union européenne ont donné ce mardi leur ultime feu vert au pacte sur la migration et l'asile. Cette vaste réforme durcit le contrôle de l'immigration en Europe, mais certains pays réclament déjà que l'UE aille plus loin. Davantage de détails avec Nanit Talani.
La réforme met en place une procédure de filtrage des migrants aux frontières de l'Union européenne pour les identifier et distinguer plus rapidement ceux qui ont des chances d'obtenir l'asile de ceux susceptibles d'être renvoyés vers leur pays d'origine. Elle établit aussi un mécanisme de solidarité entre les 27 pays dans la prise en charge des demandeurs d'asile. À côté de cette réforme, qui ne s'appliquera que courant 2026, l'Union européenne multiplie les accords controversés avec les pays d'origine et de transit des exilés comme la Tunisie, la Mauritanie et l'Égypte pour tenter de réduire le nombre d'arrivées à ses frontières. La Hongrie et la Pologne ont voté contre tous les textes qui ont été adoptés à la majorité qualifiée. L'Autriche et la Slovaquie ont voté contre certains. L'Union européenne, qui accueille par ailleurs plus de 4 millions de réfugiés ukrainiens, fait face à une hausse des demandes d'asile qui ont atteint 1,14 million en 2023, soit leur plus haut niveau depuis 2016. Les entrées irrégulières dans l'Union européenne sont aussi en augmentation à 380 000 en 2023.
Le secrétaire général de l'ONU est très inquiet concernant les combats qui ont lieu depuis quelques jours entre l'armée soudanaise et les paramilitaires à El Fasher au Darfour. Antonio Guterres s'inquiète en particulier pour le sort des habitants de la capitale de l'État du Darfour Nord, dont 800 000 déplacés qui font déjà face à la menace de la famine, répétant son appel à un cessez-le-feu immédiat et un accès humanitaire sans entrave. Il appelle aussi les parties à permettre aux civils de se réfugier dans des zones plus sûres.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En visite surprise en Ukraine aujourd'hui, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a tenté de rassurer Kiev sur l'arrivée de l'aide militaire des États-Unis au moment où la Russie assure avancer en profondeur lors de son offensive dans la région frontalière de Kharkiv. Jacques Aristide.
Dès son arrivée à Kiev ce matin, le chef de la diplomatie américaine a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'aide est en route, lui a promis Antony Blinken. Une partie est déjà arrivée, plus arrivera, et cela fera une réelle différence sur le champ de bataille, a-t-il encore déclaré. Le président Zelensky a lui insisté sur la nécessité de recevoir plus de moyens de défense aérienne. Réclamant deux batteries de Patriotes pour la région de Kharkiv, celle-là même visée par un assaut terrestre russe depuis vendredi dernier et qui a subi des bombardements intenses ces dernières semaines, y entraînant notamment un rationnement de l'électricité. L'armée russe a d'ailleurs revendiqué ce mardi la prise d'un nouveau village dans le nord-est ukrainien. Les États-Unis, sur fond de disputes intestines entre républicains et démocrates, ont mis des mois à débloquer environ 61 milliards de dollars d'assistance promises par la Maison-Blanche. Trois semaines après le déblocage, Washington a dégagé quelque 1,4 milliard de dollars en aide militaire, essentiellement des systèmes anti-aériens qui font cruellement défaut à l'Ukraine, de même que des munitions pour l'artillerie.
L'opération militaire d'Israël à Rafah a fait reculer les négociations avec le Hamas, a déploré ce mardi le premier ministre du Qatar, médiateur dans les discussions pour une trêve, soulignant que les pourparlers étaient presque dans une impasse. L'armée israélienne a multiplié tôt ce mardi ses frappes dans la bande de Gaza, poussant encore la population à fuir pour se réfugier, principalement à Rafah. L'ONU affirme qu'à Rafah, près de 450 000 Gazaouis ont été déplacés depuis le 6 mai. En rapport avec cette guerre à Gaza, Human Rights Watch accuse Israël d'avoir frappé 8 convois ou locaux humanitaires dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre en octobre. Les bombardements israéliens ont fait plus de 80 morts ces dernières 24 heures, selon le Hamas. Davantage avec Alexandrine Holoyon.
Les organisations visées avaient fourni leurs coordonnées aux autorités israéliennes afin de garantir leur propre protection. Et les autorités israéliennes n'ont averti à l'avance aucune d'entre elles avant les tirs, relève Human Rights Watch. Elle déplore la mort de 15 employés humanitaires ou personnes les accompagnant depuis octobre. Lundi, un véhicule de l'ONU a été touché par des tirs d'origine non identifiés jusqu'ici, tuant pour la première fois un employé onusien étranger. Dans ce cas aussi, l'ONU affirme que les coordonnées du trajet du véhicule avaient été transmises à l'armée israélienne. Selon l'ONU, plus de 250 travailleurs humanitaires ont été tués dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Ces dernières 24 heures, au moins 82 Palestiniens ont péri, ce qui porte à 35 173 le bilan des morts, en majorité des civils, dans la bande de Gaza, en un peu plus de 7 mois de guerre, selon un bilan du Hamas.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nanit Talani.
Le gouvernement nigérian a lancé ce mardi un portail d'informations en ligne où les investisseurs peuvent accéder aux informations sur ses ressources minières, ses installations et ses infrastructures, assure le ministère des Mines. Le portail contient des données accessibles au public sur la géologie et la richesse minérale du Nigeria. Kampala est en pourparlers avec la société chinoise Sinohydro pour le développement d'une ligne de transmission électrique de 180 millions de dollars afin de permettre à l'Ouganda d'exporter de l'électricité vers le Soudan du Sud qui manque d'énergie, a déclaré la présidence ougandaise. Le projet comprendra la construction d'une ligne de transmission à haute tension de 138 km, l'agrandissement de deux sous-stations et la construction d'une nouvelle sous-station. Pour terminer, 2,2 milliards de dollars de promesses de dons de la part des gouvernements et du secteur privé ont été recueillis lors du premier sommet sur la cuisine propre en Afrique, organisé en France. L'objectif est de fournir des options de cuisson propres à plus d'un milliard de personnes en Afrique qui dépendent de combustibles tels que le charbon de bois et le bois. L'utilisation de combustibles comme les déchets agricoles et les excréments d'animaux est la deuxième cause de décès prématurés en Afrique.
Et c'est l'heure des sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
On commence par Kylian Mbappé qui va signer au Real Madrid pour 5 saisons.
Oui, l'annonce est faite par le président de la Ligue de football espagnol, Javier Tebas. Kylian Mbappé a officialisé vendredi soir son départ du club du PSG à la fin de la saison qui s'achève. Il n'a pas dévoilé en revanche sa destination. Il vient à Madrid l'année prochaine, a déclaré Tebas dans une interview publiée mardi par le quotidien sportif argentin Olé. Le patron de la Liga précise même que le Real et l'attaquant français, qui est âgé de 25 ans, se sont entendus sur un contrat de 5 ans. Le Real Madrid va tenter de conquérir le 1er juin à Londres la 15e Ligue des champions de son histoire après avoir décroché son 36e titre de champion d'Espagne. Rien n'a encore été officialisé du côté de l'avant-centre superstar de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain comme du côté de Madrid.
Le Los Angeles FC officialise l'arrivée d'Olivier Giroud ici en MLS.
Le Los Angeles FC a annoncé l'arrivée prochaine du meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France en fin de contrat à l'AC Milan. Olivier Giroud va retrouver en Californie l'ex-gardien des Bleus Hugo Lloris. Ce que nous avons vu en Olivier, c'est une combinaison rare dans sa capacité à décrocher, à donner du lien au jeu et à être un finisseur, a commenté auprès de l'AFP John Torrington, directeur général de Los Angeles FC. Le dirigeant californien a insisté sur l'apport d'Olivier Giroud en dehors du terrain. C'est vraiment un gros coup pour le club, s'est-il félicité, depuis qu'il a rejoint l'AC Milan en 2021, après être passé par Montpellier, Arsenal et Chelsea. Giroud a marqué 38 buts en Serie A, dont 14 cette saison, son meilleur rendement en club depuis 2016. Avec les Rossoneri, il a remporté un titre de champion d'Italie en 2022.
Et puis, basketball ici aux États-Unis, NBA, Oklahoma City égalise contre Dallas.
Le Thunder a égalisé à 2-2 en s'imposant sur le parquet des Mavericks 196 lors du deuxième tour des playoffs. Le suspense est donc entier entre Oklahoma City et Dallas dans cette série disputée au meilleur des 7 matchs. De leur côté, en inscrivant 60 points à eux deux, Jason Tatum, 33 points, 11 rebonds, et Jaylen Brown, 27 points, ont largement contribué au succès des Celtics 109 à 102 face à des Cavaliers privés de leur pivot Jared Allen, mais aussi de leur meneur vedette Donovan Mitchell. touché à un mollet sous les yeux de leur ancienne star, LeBron James, avec qui ils ont remporté leur seul titre NBA en 2016. Les Cavaliers y ont cru jusqu'au troisième quart-temps avant de sombrer. Les Boston Celtics mènent 3-1 face aux Cavaliers.
Merci Yakuba. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. John Lydon, toujours en votre compagnie. Place au dossier du jour et on commence par la République démocratique du Congo où les choses ne semblent pas bouger 2 ans après les appels d'offres que le pays a lancés sur ses blocs pétroliers. Les investisseurs ne se bousculent pas. Qu'est-ce qui bloque? Eddie Isango, adjoint à Dallas, Texas, un ingénieur en géophysique appliqué, expert en exploration du pétrole, Cédric Manwana.
Le constat que nous faisons actuellement est que depuis le lancement officiel des appels d'offres sur les blocs pétroliers et gaziers de la RDC, initiés en date du 28 et 29 juillet 2022, jusqu'à présent, nous n'avons pas de réponse par rapport aux sociétés pétrolières qui ont répondu présent à ce rendez-vous.
Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi les gens ne viennent pas?
À l'est, nous avons des blocs pétroliers de la branche ouest du rift est africain, qui a été subdivisé en 11 blocs pour le graben Tanganyika et 4 blocs pour le graben Albertine. Ces blocs ont démontré toutes les potentialités pétrolières parce que l'histoire géologique de la zone nous atteste qu'il y a la présence d'un système pétrolier fonctionnel. Et certains travaux ont été effectués. Mais nous devons savoir que les compagnies pétrolières sont premièrement attirées par les blocs pétroliers que s'ils possèdent des données. Et c'est le cas dans la branche ouest du rift est africain, mais le grand problème se situe au niveau de l'évacuation. Aujourd'hui, la RDC ne raffine pas de pétrole, et nous avons du pétrole dans cette partie est, mais une fois que le pétrole est découvert et extrait, nous ne savons pas par où nous devons l'évacuer. Raison pour laquelle, lorsque le gouvernement a initié ses appels d'offres sur ses blocs pétroliers, il n'a pas tenu compte du lieu d'évacuation. Parce que, par exemple, les blocs du graben Albertine que nous partageons avec l'Ouganda, aujourd'hui, l'Ouganda n'est pas favorable pour que le pétrole puisse être évacué du côté de l'Ouganda parce qu'il y a un projet entre l'Ouganda et le groupe Total d'installer un pipeline qui passera par l'Ouganda, la Tanzanie, pour se retrouver au niveau de l'océan Indien, pour aller en fait à différentes raffineries de par le monde.
Vous avez parlé du lac Albert avec l'Ouganda qui déjà exploite le pétrole de la même nappe que la RDC.
Oui, c'est un problème. C'est-à-dire que l'Ouganda aujourd'hui, la roche réservoir qui contient les hydrocarbures a une épaisseur de 3 km, tandis que du côté de la RDC, nous avons 6 km d'épaisseur. Donc aujourd'hui, logiquement, la crainte est qu'un jour, l'Ouganda puisse effectuer des forages déviés et puiser le pétrole dans le sous-sol congolais sans que la République, sans que les autorités puissent s'en rendre compte.
Ça, c'est l'obstacle, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant?
Il faut déjà revoir le code des hydrocarbures qui n'est pas attractif pour les investisseurs. Il faut revoir le budget alloué au secteur des hydrocarbures pour que le gouvernement ou bien le pays puisse effectuer des travaux. Mais aussi, il faut qu'il y ait une main d'œuvre qualifiée. C'est-à-dire, lorsque nous préparons les appels d'offres, ce que nous devons présenter aux investisseurs doit avoir une attention particulière des spécialistes. Là, nous pourrons attirer les investisseurs. Nous pourrons avoir une présentation des blocs pétroliers qui seront attractifs.
Cédric Manwana, ingénieur en géophysique appliqué, expert en exploration du pétrole.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
En Côte d'Ivoire, la norme cacao durable est une notion encore méconnue du grand public. Cette norme européenne, lancée en 2021, a du mal à être adoptée par beaucoup de cacaoculteurs ivoiriens. L'Union européenne exige de sa part le respect de cette certification pour pouvoir écouler leurs produits. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant à Abidjan, Ange Bijou Nomenyo.
Nous sommes à San Pedro, ville du sud-est de la Côte d'Ivoire. Cette coopérative de cacao implantée aux abords de la ville avait démarré ses activités de commerce sans certification. Cela a eu pour effet de freiner la commercialisation du cacao vers l'Europe. Un an après être certifiée, la commercialisation se passe plutôt bien. Abdoulaye Ouattara, administrateur de la coopérative Ecofas.
Il faut apprendre aux producteurs comment faut faire les bonnes pratiques agricoles, accepter de planter les arbres, puisqu'il y a un changement climatique. Voilà, c'est le fait de détruire les gros arbres pendant le défrichement. Donc du coup, comme il y a un vide dans les différentes plantations, avec l'arrivée de la certification, nous donnons les plans d'arbres d'ombrage aux producteurs pour pouvoir combler le vide d'arbres d'ombrage dans les différentes plantations. Les anciennes pratiques ont changé.
Et qui dit anciennes pratiques dit déforestation, travail des enfants ou encore non-amélioration des conditions de travail des producteurs. L'Union européenne est claire sur la question. Tout producteur de cacao qui ne suit pas ces normes ne pourra pas vendre son produit aux pays européens. Ambroise Fayol, vice-président de la Banque européenne d'investissement.
La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao et par ailleurs, le premier exportateur de cacao en Europe, c'est la Côte d'Ivoire. Donc il y a une sensibilité particulière à la Côte d'Ivoire, mais il n'y a aucune raison que, à partir du moment où les nouvelles règles européennes s'imposent à tous les producteurs de cacao, et donc il va falloir que tous s'adaptent.
Depuis son lancement en juillet 2021, la norme cacao durable n'a pas encore fait l'objet d'une réelle implémentation. Les mesures pour arriver à son adoption sont en cours, mais beaucoup de producteurs se plaignent de la lenteur du processus. Pour certains spécialistes du domaine, ce n'est qu'une question de temps. Moutiou Adibi Nourou, journaliste économique.
Il y a quelques années, lors d'une interview, le président Ouattara expliquait que la Côte d'Ivoire ne refusait pas, la Côte d'Ivoire n'est pas contre la promotion du label vert, du label écolo. Donc forcément, les mesures sont en train d'être prises pour faire en sorte que la culture du cacao n'impacte pas négativement l'environnement. Mais évidemment, la Côte d'Ivoire est un pays qui repose sur la culture du cacao et ce changement-là ne peut pas se faire de manière brusque.
La Côte d'Ivoire est mise sous pression par l'Union européenne qui représente plus de 67% de ses exportations. La série de mesures en cours d'application depuis 2021 prévoit de n'autoriser l'entrée sur le marché européen que des produits dont la chaîne d'approvisionnement respecte des critères préétablis comme la lutte contre la déforestation, l'amélioration des revenus des producteurs et la lutte contre le travail des enfants dans les plantations. Ange Bijounomayan pour VOA Afrique, Abidjan.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Alors que la Russie a pénétré dans le nord de l'Ukraine cette semaine, la course à la présidence des États-Unis entre le président Joe Biden et l'ancien président Donald Trump s'est concentrée sur une autre crise de politique étrangère, la guerre à Gaza. Comme le rapporte la correspondante de la VOA au Congrès, Catherine Gibson, il pourrait être difficile de maintenir l'attention des Américains sur l'Ukraine. Récit Yacouba Ouidraogo.
La ville frontalière de Vovchansk, dans le nord de l'Ukraine, évacuée quelques heures avant la prise de la cité revendiquée par la Russie. L'Ukraine riposte grâce à l'aide de plus de 50 milliards de dollars des États-Unis, approuvée le mois dernier par le président Joe Biden. Depuis des mois, le chef de l'exécutif américain affirme que l'aide à l'Ukraine est une pièce maîtresse de la politique de sécurité nationale des États-Unis.
The United States walks away.
Si les États-Unis se retirent maintenant, l'Ukraine sera en danger, l'Europe sera en danger, le monde libre sera en danger, ce qui va revigorer ceux qui veulent nous faire du mal. Mon message au président Poutine, que je connais depuis longtemps, est simple. Nous ne nous dérobons pas.
Mais les analystes soulignent que l'élection présidentielle tourne rarement autour des questions de politique étrangère. James Tauber, professeur à l'American University.
La question de l'Ukraine apparaît à peine dans les sondages et sur la politique étrangère. Moins de 5% des gens pensent que c'est une question importante. La politique étrangère, en général, ce sont les relations que nous entretenons avec la Chine, le Parti communiste chinois, mais aussi le fait de s'opposer à Poutine et à ce qui se passe à Gaza.
Le candidat républicain présumé à l'élection présidentielle, Donald Trump, a affirmé que les États-Unis envoyaient déjà trop d'aide. Au début de l'année, l'ancien président a laissé entendre qu'il n'adhérerait pas au pacte d'autodéfense mutuelle si la Russie envahissait un pays de l'OTAN.
Je ne vous protégerai pas. En fait, je les encouragerai à faire ce qu'ils veulent.
Ce message trouve un écho auprès des électeurs préoccupés par l'engagement américain à l'étranger. Selon Barbara Perry, professeure à l'Université de Virginie.
Les 20 ans de guerre contre le terrorisme et les guerres soi-disant sans fin ont probablement converti plus d'Américains à l'isolationnisme et à l'Amérique d'abord. Et c'est la raison pour laquelle Donald Trump a eu du succès en 2016. Et c'est pourquoi il a réussi à obtenir de manière quasi officielle l'investiture du Parti républicain en 2024.
L'opposition au financement de la défense de l'Ukraine contre la Russie a mis certains républicains dans une position difficile en cette année électorale, mais après des mois d'atermoiement, le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, un partisan de Trump, a fait voter l'aide avec succès.
Je préfère envoyer des balles en Ukraine plutôt que des jeunes Américains.
Alors que des manifestations contre la guerre à Gaza se déroulent sur les campus universitaires des États-Unis, les analystes estiment que la manière dont l'aide américaine est dépensée à l'étranger est un sujet de discussion pendant la saison électorale. Barbara Perry de nouveau.
Je connais un certain nombre de jeunes électeurs dans ce pays qui réfléchissent attentivement à leur dette d'études, par exemple. Vous savez, pourquoi dépensons-nous ces milliards et ces milliards de dollars en envoyant des armements à l'étranger, en Ukraine et en Israël? Pourquoi n'utilisons-nous pas cet argent au niveau national pour d'autres problèmes dont il faut s'occuper dans ce pays?
L'aide à l'Ukraine approuvée par le Congrès en avril sera probablement le dernier versement de l'année avant l'élection présidentielle de novembre.
This is the voice of America. Washington, D.C.
Le 77e Festival de Cannes s'ouvre ce mardi avec la vague MeToo dans tous les esprits. Un défilé de stars dont une légende d'Hollywood, Meryl Streep, et l'appel au secours d'un cinéaste iranien contraint à l'exil. La cérémonie d'ouverture réunit les grands noms du 7e art. Pour en savoir davantage, Georges Léonard Sagnou a joint à Cannes Hervé David Ronla, directeur des publications du journal Oxygène Mag Info, qui se trouve à Cannes.
C'est une ambiance, je dirais, phénoménale. Malgré la fine pluie, il y a du monde qui est en train d'assister un peu à cette grande cérémonie. Vous appelez la pique parce que tout est fin prêt. Les autorités, que ce soit culturelles, administratives, justement, ont mis les petits plats dans les grands et le public a répondu présent. La montée des marches vient de se dérouler. Il y a toutes les stars, notamment Meryl Streep, l'américaine, qui va recevoir, je dirais, même la palme d'or d'honneur. C'est la première palme d'or qu'on remettra justement à cette 77e édition du Festival de Cannes, donc dans la salle. Et puis nous avons surtout la cérémonie d'ouverture qui est en train de se dérouler en ce moment, avec justement le premier film qui sera projeté, n'est-ce pas, le film de Quentin Dupuis, le deuxième acte. Donc c'est le tout premier film justement qui sera projeté ici même au Festival de Cannes. Mais en termes d'ambiance, c'est une foule phénoménale. Les gens sont dans la salle, ils observent justement la cérémonie de voiture, mais il y a encore un monde de fous dehors justement qui attend, bien entendu, que les stars également ressortent pour des photos et puis des selfies et les paparazzi sont également là.
Alors Hervé, l'ambiance est bon enfant, vous l'avez dit. Hein. Est-ce qu'il y a des films africains qui sont en lice ou qui pourraient être susceptibles d'être primés à ce festival de Cannes?
Je risque peut-être de recevoir les Africains. Il n'y a aucun film de l'Afrique noire en compétition, aucun film d'ailleurs africain en compétition pour être plus exact, ni justement au niveau du long métrage en compétition, notamment les 22 films qui ont été sélectionnés. Il n'y a aucun film africain, même également au niveau du mal de la quinzaine, depuis un certain regard, il n'y a véritablement pas de film africain. Il y a éventuellement des films en coproduction, mais beaucoup plus d'Afrique du Nord, un film égyptien. En compétition, ben, véritablement pas en compétition officielle. Donc, de façon générale, il n'y a pas de film africain en compétition officielle à cette 77e édition.
Quel est l'impact de la présence africaine à ce festival, Hervé?
Malheureusement, l'Afrique est certes présente, mais de façon minoritaire et de façon exclusive. C'est-à-dire que le pavillon Afrique, grâce justement à la promotrice Karine, elle se bat depuis 5 ans justement pour valoriser un peu le cinéma africain à travers justement son...
Fin de ce journal au Monde aujourd'hui. On vous retrouve.